7h24 minutes. Depuis presque un an maintenant que cette pandémie nous touche, elle a pas mal évolué. On a tous en mémoire, évidemment, la première vague du printemps, l'espèce de parenthèse de l'été, le retour des cas. Et depuis quelques semaines, bien sûr, les variants qu'on commence à découvrir, qui sont potentiellement, dit-on, plus dangereux, qui se propagent plus rapidement. Et on connaît les problèmes de livraison de vaccins pour le Canada. Alors, je fais le point ce matin avec Dr Joanne Liu, justement pour voir un peu ce qui se passe ici, mais ailleurs dans le monde. Quel est le portrait de cette pandémie? Dr Liu, bonjour.
Bonjour.
Si vous aviez à me dire en quelques phrases ce matin, là, c'est quoi la situation globale, mondiale de cette pandémie?
De façon générale, en tout cas dans l'hémisphère nord, on voit surtout un déclin de cas. Parce que suite au fait qu'il y a eu beaucoup un resserrement au niveau des mesures de santé publique. Mais où est-ce qu'on a beaucoup d'inquiétudes, c'est que le deuxième pic ou la deuxième vague semble frapper beaucoup plus fort au niveau de l'Afrique. Et là, on commence à voir des chiffres qui sont importants et avec des débordements, des manques au niveau de ressources, notamment surtout de l'oxygène. Donc, ce n'est pas partout la même photographie de l'épidémie.
C'est inégal, vraiment.
Oui, c'est tout à fait inégal.
Et quand vous dites ici, en fait, l'hémisphère nord, on assiste à un déclin du nombre de cas, est-ce que pour vous, cette tendance-là, et là, je vais parler évidemment du Québec, du Canada, là, est-ce que c'est significatif ou s'il faut se méfier, justement, des variants qui arrivent et potentiellement, certains parlent même d'une autre vague?
Moi, je suis toujours un peu du côté des gens qui sont assez, pas pessimistes, mais je fais attention parce que je me suis fait trop souvent prendre dans ma vie. Et je vous dirais que c'est un signe qui est encourageant. Ça veut dire que, bref, des mesures de santé publique peuvent fonctionner. Donc, c'est une bonne chose parce qu'on se rend compte qu'on a quand même quelque chose dans notre boîte à outils qui fonctionne. Mais la chose, c'est qu'on sait qu'il peut y avoir une résurgence si on a un relâchement. Et là, c'est vraiment important de ne pas être impatient et de continuer. Et c'est difficile, ça on le sait tous, mais je crois que les gens, et de façon générale tout le monde, on est un petit peu aussi tanné de la dynamique de yo-yo, de confiner, déconfiner, confiner, déconfiner, puis ça serait bien de l'éviter. Et je pense que la façon la plus facile de l'éviter, c'est de continuer des mesures assez strictes de santé publique appliquées.
Qu'est-ce que vous entendez par mesure stricte?
Dans le sens que je pense qu'un relâchement trop rapide va faire que toutes les gains qu'on a fait dans les 4 dernières semaines vont s'évanouir. Et avec aussi, si on réouvre les écoles, des lieux publics avec un contrôle qui n'est pas resserré au niveau de la surveillance, ça va permettre une transmission communautaire à bas bruit qui tout d'un coup, 2 semaines après, va encore nous surprendre. Et avec en plus possiblement des nouveaux variants. Donc moi, je serais plutôt sur un scénario et c'est ça qu'on conseille de façon générale, c'est de dire il faut être très, très, très patient, il faut être vigilant et donc il faut aller tranquillement dans le déconfinement. Il ne faut pas rater notre déconfinement. Je pense qu'on l'a appris que des déconfinements précipités donnent, une longueur d'avance au virus. Et lui, il attend que ça. Il n'est jamais fatigué. Nous, on est fatigués. Lui, il n'est pas fatigué, le virus. Et donc, il attend d'être lâché lousse pour pouvoir faire sa job de se promener. Et à chaque fois qu'il se promène puis qu'il change, bien, il y a toujours ce risque-là de mutation. Donc, c'est pour ça qu'on veut le freiner maintenant. Pas juste ici, hein, mais c'est un petit peu l'idée actuelle. On se rend compte que les mutations sont arrivées, les mutations sont différentes, changent le niveau de transmission. Et là, il faut freiner ça.
Qu'est-ce qu'on sait des différents variants? Là, il y a Britannique, il y a Afrique du Sud. Là. Qu'est-ce que la science sait sur ces variants actuellement?
Écoutez, ce qu'on sait est quand même limité, mais c'est surtout qu'il y a une question de transmission qui est accrue chez certains, notamment celui de la Britannique, qui est accru, et que on parle de jusqu'à 50% d'augmentation. Donc c'est énorme et énorme, hein? Je veux dire, si une personne infectait 10 personnes initialement, là il en infecte 15, ben on voit vite comment ça peut aller après quelques jours. Donc ça, on sait ça de façon très 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 précise, mais on a une très bonne idée. Et là, on est en train d'essayer d'évaluer les vaccins développés jusqu'à quel point nous protègent-ils contre ces variants-là. Mais c'est juste ces variants-là et on sait que ça continue les mutations. Et donc c'est pour ça que ça demeure toujours une course. C'est une course contre la montre, une course contre le virus, de pouvoir se protéger et d'arrêter sa propagation, parce que plus il se propage, plus il mute.
Puis en même temps, la planète court après les vaccins. Et, on voit, il y a des pays qui sont capables de... parce qu'ils ont des capacités de production, parce qu'ils ont des ententes, les Américains, les Britanniques. Le Canada, M. Trudeau dit, ben, les gens seront vaccinés d'ici l'automne. Là, il y a des retards. Plusieurs pensent que ça ira à la fin de l'année. Ça veut dire qu'on en a, malgré tout, là, pour des mois, à viser cette immunité collective. Donc, par les vaccins, mais aussi par le respect des mesures pour éviter qu'il y ait des éclosions massives.
Absolument. On est vraiment, on l'avait dit à notre dernier entretien, en train de courir cet ultramarathon-là. Oui, et il va possiblement avoir d'autres surprises, et c'est extrêmement... à certains moments, décourageant. C'est un peu un jeu de course serpent-échelle, là, où on a l'impression de monter, on est content, et puis boum, il se passe quelque chose, on a un retard sur la livraison. Donc, toutes ces choses-là vont probablement continuer à arriver, parce qu'on est dans une dynamique depuis le début, hein, c'était la même chose pour les masques, de autant gérer une pénurie de ressources que gérer une pandémie. Et on fait comment, et c'est toujours des réajustements, c'est toujours se réadapter à une réalité et de permettre d'avancer malgré tout et de garder les gens, je veux dire, engagés dans le combat.
On parle beaucoup de science pure, là, c'est-à-dire les vaccins, le virus comme tel, les mutations. J'aimerais vous entendre sur le volet de la santé mentale, parce qu'au début, on était pris par surprise, on s'est tous pas mal ajustés. Est arrivée cette période estivale, reprise des cas. On est au mois de février. On souhaite tous, on parlait du marathon puis la lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent, là, on est rendu, c'est pas juste qu'on est tanné, là, c'est qu'on est fatigué de ça puis qu'on a besoin de contact humain, on a besoin de voir des amis, on a besoin de voir nos enfants. C'est ce qui nous manque le plus.
Oui, et c'est troublant d'entendre ça et c'est normal et je crois que il faut créer des moments de rencontre mais qui sont sécuritaires et je sais que les gens veulent faire du personne en personne c'est très difficile. Moi, je crois que il faut donner un certain espace de rencontre. Et là, on entend différentes suggestions de se rencontrer à l'extérieur, tout ça. Moi, j'ai beaucoup de sympathie par rapport à ça, mais je pense aussi que ce qui va aider la santé mentale des gens, c'est de se dire qu'on est capable de se projeter dans le futur. Parce que ça aussi, ça accorde beaucoup, beaucoup l'état d'esprit des gens. Ils se disent, je ne sais pas que sera mon demain. Et c'est pour ça que je crois que si... Et on ne retournera pas en arrière, hein. On ne retournera pas sur une stratégie. On pourrait, mais ça prendrait un grand, grand accompagnant de communication de dire est-ce qu'on ne change pas de paradigme dans notre tête et est-ce qu'on ne va pas vers une stratégie de COVID-0?
Qu'est-ce que vous voulez dire par une stratégie de COVID-0?
Mais ça veut dire qu'on essaye, on garde des mesures strictes et sévères jusqu'à temps qu'on atteint le pré-zéro. Comme ils ont fait en Atlantique, comme ils ont fait en Australie, comme ils ont fait en Nouvelle-Zélande, pour pouvoir avoir une transmission communautaire extrêmement, extrêmement basse, au lieu de faire ça à mi-chemin. Et là, on sait que quand on fait ça à mi-chemin, il y a suffisamment de virus dans la communauté pour renourrir un prochain pic de cas et rebelote, on recommence. Et on se rend compte que ça, c'est sur le moral, ça tue, mais sur l'économie, ça tue, et sur les vies, ça tue. Donc, ça marche pas. Et je disais, ben, est-ce qu'on continue beaucoup plus longtemps et on en arrive là pour arriver au bout et après ça, d'être capable de recommencer petit à petit. Mais c'est d'arrêter en plein milieu un processus. Je trouve que ça fait plusieurs fois qu'on le fait, mais on se rend compte que ça n'a pas donné les résultats escomptés.
Là, vous me direz si je traduis bien vos propos. Dans le fond, d'y aller avec des mesures strictes, de donner un peu de louche, comme on dit, là, de permettre un petit déconfinement, quoique c'est quand même important, là, ça risque d'engendrer une autre vague, puis là, après ça, d'autres mesures sévères. Ça, c'est pire que de dire on serre la vis maintenant plus longtemps pour clouer le virus au sol.
Oui, ça serait. Moi, je pense qu'on pourrait penser à réfléchir à ça parce que je pense que l'expérience qu'on a du yo-yo, ça fonctionne pas. On regarde les pays qui s'en sont relativement bien sortis, à très bien sortis. Et c'est sûr qu'on est dans des cas de figure hein, qui étaient très, très différents. Ils ont été très austères dans leurs mesures dès le début, quand la transmission communautaire était très basse. Donc, c'était un exercice qui était plus facile. Et c'est pour ça qu'on a eu à le faire une certaine période, mais pas de façon très, très longue, parce qu'il n'y avait pas autant de transmission communautaire. Nous, dans notre cas, si on se rend compte du déclin, hein, on a quand même diminué de peu près de 20 à 25 % chaque semaine le nombre de cas. Si on continue pour prolonger ça, parce qu'on était le 8 janvier à 2588 cas, de nouveaux cas par jour, on est autour de 1093, ça c'était hier, bien si on continue encore pour quelques semaines de ça, on arriverait vraiment à près d'un zéro. Et donc, à ce moment-là, on serait peut-être dans une situation où, au lieu de réouvrir dans un moment où il y a pas mal de transmission, on permettra un déconfinement quand il y a très peu de transmission. Et là, en plus, entre-temps, les vaccins probablement prendraient de l'ampleur au niveau de la campagne vaccinale et on pourrait possiblement voir de façon plus certaine une fin d'arrivée.
Dr Liu, merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Merci.
Au revoir, Dr Joanne Liu, qui est pédiatre, et elle fait partie d'un panel indépendant d'experts chargé par l'Organisation mondiale de la santé d'évaluer la gestion de cette crise de la COVID-19.